Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en cette première semaine de septembre pour reprendre nos bonnes habitudes. On vous retrouve chaque semaine sur les ondes de Radio Présence pour nous
C'est
donner
avec grand plaisir.
Des nouvelles du diocèse. D'abord, la première question, Monseigneur, vous ne pouvez pas y échapper. Comment avez-vous passé cet été? On imagine assez facilement que vous avez beaucoup pensé au pape, mais est-ce que vous vous êtes un petit peu reposé quand même?
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir garder 9 jours de vraies vacances début juillet, avant la première quinzaine de juillet, ça m'a fait un bien fou. Mais depuis, l'agenda, la vie, etc., sont particulièrement trépidants. Mais tout ça, c'est pour la préparation de la grande joie d'accueillir le Saint-Père à Lourdes, bien sûr, et de vivre ces presque 48 heures, 36 heures avec lui et l'ensemble des gens qui seront à Lourdes à ce moment-là, plus tous ceux qui seront devant leurs écrans, à l'écoute de leur poste, écouter les meilleures radios qui soient, enfin, etc. Et donc, c'est beau. Bon, à la fois, c'est très fatigant parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de retours sur des choses validées, puis finalement, ça change. Par exemple, la messe qui était prévue l'après-midi, finalement, est le matin. Et puis, bon, un certain nombre d'autres choses comme ça, mais bon, j'imagine
ça
que
ça fait partie du jeu, non?
Ça fait partie du jeu, de et puis de l'excitation qui l'accompagne. C'est tout ça est assez palpitant. Je dès que j'arrive à faire un petit pas de côté, prendre un tout petit peu de recul de hauteur, je suis tout de suite ce qui me vient, c'est une immense reconnaissance et action de grâce pour l'ensemble des gens qui portent tout ça dans le concret. On se retrouve tous les mercredis après-midi à Lourdes pour faire le point sur l'ensemble de tout ce qu'il y a à piloter en même temps. Et franchement, tous ces gens-là font mon admiration et leur engagement, leur générosité, leurs compétences professionnelles aussi, hein, c'est très très impressionnant. Alors bon, ben voilà, tout le monde relève des défis incroyables à chaque fois. Chaque fois qu'un nouveau défi apparaît, on se dit, mais comment on va faire? Puis le mercredi d'après, finalement, voilà, oui. Et on a trouvé des solutions, ou ils ont trouvé des solutions.
Chacun donne le meilleur de lui-même.
Ah, c'est incroyable, c'est formidable, 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 vraiment. Et donc j'ai passé un été palpitant, on va dire, de ce côté-là, avec quelques soucis aussi, puisque ben, il y a eu quelques coïncidences d'agenda, qui ont fait un peu l'actualité, la une, et c'est pas fini, et voilà, qui traverse l'histoire de l'Église au-delà de la préparation du voyage du pape à Lourdes. Et ma responsabilité d'évêque de Lourdes fait que ben, si j'étais évêque de notre diocèse, il n'y aurait pas ce genre de préoccupation.
Donc là, vous évoquez l'affaire avec la fraternité.
Et malheureusement, cette douleur. Je me souviens quand Mgr Lefebvre avait décidé de l'ordination des premiers évêques, des trois évêques, et puis certains, j'étais au séminaire à l'époque, et certains avaient exprimé un certain soulagement en disant « ben voilà, ben au moins ça, c'est clair, et voilà, on sait qui est qui, et quels sont les camps en présence ». Moi j'étais sorti pleurer dans le jardin parce qu'un schisme ne peut que produire cette émotion-là, et j'ai l'impression de revivre exactement la même chose avec les mêmes difficultés, et mon cœur est profondément déchiré comme un schisme déchire. Et voilà, alors je suis obligé d'être cohérent avec les conséquences de la décision prise par les responsables de la fraternité Saint-Pie-X et le constat que le Saint-Siège fait et du schisme et de l'excommunication, et donc je ne peux pas me démarquer de cela.
C'est
bien
pas
évidemment
le Saint-Siège qui a décidé d'excommunier les membres de la fraternité Saint-Pie-X.
En droit canonique, c'est l'acte posé qui fait qu'ils se mettent eux-mêmes hors de l'Église en cessant d'obéir publiquement au pape. Voilà. Et c'est ça l'excommunication, c'est ne plus être en communion. Et donc, soit elle est une sanction décidée par un tribunal ecclésiastique et donc le souverain pontife, soit c'est l'acte posé lui-même qui met hors de la communion. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 1er juillet. Et le Saint-Père les avait suppliés de ne pas partir, de ne pas poser cet acte qui aurait cette conséquence-là. Eh bien, voilà, la conséquence est constatée, et de mon côté, j'ai demandé, ben alors qu'est-ce que nous, on doit faire à Lourdes? Et on m'a répondu, ben vous devez être en cohérence avec
prendre acte aussi
le reste de l'Église, et donc c'est ce que j'ai signifié, et bon, ben voilà. Alors tous les gens ne le comprennent pas, et c'est une grande douleur. Ça me vaut quelques noms d'oiseaux. Bon, voilà. On me prête des sentiments qui ne sont pas les miens. On me dit que je déteste les tradis. Ben, je déteste pas les tradis. Il n'y a pas besoin d'être dans un schisme pour vivre cette sensibilité à l'intérieur même de l'Église. Il y a des communautés qui portent cette sensibilité dans le diocèse et on s'entend très très bien. Et il n'y a pas de problème, on vit en communion. En communion, bon sang de bonsoir. C'est ça le point vraiment difficile.
Donc pour que les auditeurs qui peut-être ne sont pas tous au courant comprennent bien, suite à cet acte posé par la Fraternité Saint-Pie-X dont le Saint-Père a pris acte, vous en avez pris acte également en interdisant la Fraternité Saint-Pie-X de faire son pèlerinage annuel au sanctuaire de Lourdes. Ça ne veut pas dire pour autant
célébrer le culte public. C'est ça qui est pointé dans le communiqué. C'est ça qui n'est plus possible.
Mais des pèlerins peuvent venir.
Dans le sanctuaire ne sont célébrées que des célébrations qui sont en communion avec le Saint-Père, avec l'évêque du diocèse. Il y avait une tolérance tant qu'il y avait un dialogue et un chemin de réconciliation ouvert. Ce chemin s'est fermé le 1er juillet dernier à l'initiative de la fraternité, et donc, dont acte, voilà. Et donc, moi, je dois continuer ma mission qui est de veiller à ce que ne soient célébrées que des célébrations qui sont en communion avec l'Église catholique. Alors on me dit, l'an dernier, vous avez accueilli des musulmans. Et donc, c'est plus facile d'accueillir des musulmans que d'accueillir des catholiques.
C'est ce qu'a rétorqué certains membres de la Fraternité Saint-Pie-X à travers
un
communiqué.
Oui, puis le responsable qui me l'a écrit aussi. J'ai dit, le problème, c'est que... Enfin, le problème. En aucun cas et à aucun moment en aucune manière, les musulmans n'ont célébré une prière musulmane ni devant la grotte ni ailleurs pendant l'organisation de la rencontre qui est à l'initiative de la Conférence des évêques de France dans le cadre des relations entre l'islam et l'Église catholique en France depuis le Concile. C'est une démarche qui a été voulue par le Concile. Et donc, ils ont répondu, 5 personnes, à l'invitation de la Conférence des évêques, et ils ont participé aux célébrations organisées par le sanctuaire.
Mais ils n'y ont pas
célébré la procession mariale le soir. C'est tout ce qu'ils ont fait dans le sanctuaire. Ils ont participé à la procession organisée par le sanctuaire. Ils n'ont pas organisé le culte musulman, et ils ont participé à ce que nous, on organise. Les membres de la Fraternité Saint-Pie-X, toutes les familles, et beaucoup de ces familles sont des familles magnifiques, qui sont bien intentionnées, que j'en connais certaines, c'est des gens très bien, sont les bienvenus aux célébrations organisées par le sanctuaire. Sauf que leur consigne, c'est qu'ils ne doivent pas y participer. Et donc, c'est eux qui se mettent en dehors de la communion. C'est pas moi qui les excommunie, et encore moins le Saint-Siège.
Alors, parfois...
Mais je n'ai pas le droit de leur permettre de célébrer un culte qui ne soit pas en communion avec le pape et avec moi.
Le problème, au fond, c'est pas la liturgie. Le problème, c'est la compréhension de ce qu'est l'Église.
C'est pas la liturgie, puisqu'on a exactement les mêmes à l'intérieur de l'Église via, par exemple, la Fraternité Saint-Pierre. Il y a 2 communautés qui sont dans le diocèse, une à Tarbes, une à Lourdes, et qui célèbrent exactement la même liturgie que les membres de la Fraternité Saint-Pie-X. C'est exactement la même liturgie. C'est la liturgie d'avant le Concile Vatican II, et qui est permise dans un certain cadre, mais qui ne rompt pas la communion. Et donc c'est une question de rupture de communion. S'il n'y a pas la communion, le sanctuaire de Lourdes est un sanctuaire catholique sous la responsabilité de l'Église catholique, donc du pape, des évêques, de la conférence des évêques. Et moi, je dois veiller à ce que ce qui se déroule au sanctuaire soit bien dans cette communion. Ce n'est plus le cas depuis le 1er juillet.
Ça peut se réparer ? Ils peuvent faire marche arrière ?
Ça, je l'espère de tout cœur. Je prie pour, parce que, comme je l'ai écrit dans le communiqué, ou dans la note que j'ai publiée, la déchirure de la tunique du Christ est un scandale qui empêche la foi, et le peuple de Dieu en est la première victime. Voilà. Et l'annonce de l'Évangile, le témoignage que nous portons, que nous devons porter, est empêché. Voilà. Donc je l'espère de tout cœur, je prie pour cela, mais j'ai reçu des courriers qui me demandent de renier le Concile, le pape, et de reconnaître que c'est eux qui ont raison. Comment voulez-vous ? C'est pas possible. Si c'est ça la base de la communion, c'est complètement impossible. Voilà.
Merci, Monseigneur, pour vos mots sur ce sujet. On n'avait pas prévu d'en parler, mais c'était important que vous expliquiez.
Ah, ça m'a crucifié le cœur tout l'été. Au milieu de la joie, de tout le reste, ça, c'est vraiment une écharde extrêmement douloureuse.
Eh oui. On revient, si vous voulez bien, sur le pape qui bien va sûr. Venir à Lourdes dans quelques jours. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Damien Massé, qui est donc le coordinateur de l'avenue du Saint-Père au sanctuaire de Lourdes, qui est venu au micro de Radio Présence cette semaine. C'est quoi qui donne le tempo des préparatifs de cette visite? Est-ce que c'est plutôt de bien accueillir le pape, les pèlerins, la sécurité du pape, l'image du sanctuaire, les malades, comme on a l'habitude de le dire à Lourdes? C'est quoi le bon tempo?
Ben, c'est tout à la fois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, le défi énorme à relever, c'est de permettre à Lourdes de continuer d'être Lourdes et le sanctuaire que l'on sait, pour tous les pèlerinages qui sont inscrits depuis un an et demi, deux ans, et qui continuent d'être là, bien sûr, et Lourdes continue de vivre ce qu'on vit à Lourdes, et juste avant, et devra continuer de le vivre, et juste après. Et donc de faire cohabiter les préparatifs énormes et la mobilisation que cela exige de la part des acteurs du sanctuaire de Lourdes, tout en maintenant le reste. Et pour le reste, les acteurs en question sont déjà engagés à plein temps, en pleine saison au sanctuaire. Donc ils ont à tenir en même temps le maintien de la vie quotidienne. L'autoroute continue d'être l'autoroute sur laquelle circule le flux habituel de véhicules, tout en faisant d'énormes travaux en même temps. Voilà, c'est un défi considérable. Mais que l'autre enjeu, vraiment, je dirais le principal, j'aurais dû commencer par là sans doute, c'est que les préparatifs spirituels l'emportent sur les préparatifs matériels. C'est d'abord la préparation des cœurs, la préparation du contenu, la préparation du message, la préparation des rencontres que le pape vivra pendant son séjour à Lourdes.
Et ça, donc, c'est pas facile.
C'est facile aussi, parce que ça mobilise également beaucoup de voilà, les chapelains qui ont l'habitude de porter cette dimension-là, mais aussi beaucoup de salariés du sanctuaire et de bénévoles du sanctuaire. Et donc, sur les contenus des rencontres, des célébrations, etc. etc. Et c'est ça qui doit l'emporter. J'ai beaucoup apprécié une première réunion à la préfecture où M. Salomon, désormais préfet à Auxerre, avait donné le tempo ou le là à cette réunion. Il y avait 35 personnes, des responsables du sanctuaire, mais aussi des responsables de la police du département, de la région, des gendarmes, des chiens anti-drogue, des pilotes de drones, du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, enfin, etc., les pilotes d'hélicoptères, tout ce qu'on vous voulez. Dans ces 35 personnes, chacune de ces personnes représentait une petite armée qui sera mobilisée au moment de la visite du pape. Et M. le préfet, à l'époque, avait commencé la réunion en disant: les gens qui seront très nombreux à Lourdes ce jour-là viennent pour passer une journée avec le pape, qui est leur chef spirituel. Le soir, quand ils rentreront chez eux, il faut qu'ils aient le souvenir d'avoir passé la journée avec le pape et pas avec un policier. Voilà.
Et donc les policiers sont bien là, mais c'est pas...
Les policiers sont là, et c'est cet état d'esprit qui prévaut aussi dans les réunions à la préfecture et que j'apprécie singulièrement.
Alors le pape vient à Lourdes, mais le pape vient évidemment en Bigorre. Et on peut rappeler et saluer que les Bigourdans, les fidèles du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, auront une belle place dans la prairie au moment de la messe. Vous y avez tenu. Et voilà.
Alors j'ai veillé bien sûr à ce que tous les membres du diocèse... Alors il y a un sujet aujourd'hui, c'est que les gens du diocèse qui veulent s'inscrire directement, personnellement, constate que les inscriptions sont closes sur le site du sanctuaire, parce qu'en effet, la jauge est déjà atteinte.
150 000 pèlerins.
C'est à la fois la jauge fixée par la préfecture, mais c'est aussi la capacité maximale d'accueil du sanctuaire, tout simplement. Hein. Parce qu'il faut prévoir des allées pour faire circuler des véhicules de secours, etc. etc.
Oui. Bon.
Donc ça prend de la place, tout ça. Donc la jauge est atteinte, mais pour atteindre cette jauge, les diocèses ont réservé des places. Et donc, il les redistribue. Donc, il faut s'inscrire auprès du service diocésain des pèlerinages. Et donc, ça reste possible. Les gens qui ne seraient pas encore inscrits du diocèse, faites-le sans tarder auprès de vos paroisses, auprès de M. Cabidoche, le directeur diocésain des pèlerinages. Et il y aura de la place pour les gens du diocèse jusqu'au bout. Voilà, cette place, elle est réservée de manière privilégiée, devant le podium,
donc
au plus près.
Ne baisse pas les bras. Voilà.
Ne baissez pas les bras. Si sur le site, vous constatez que les inscriptions sont closes, adressez-vous au diocèse et vous aurez de la place. Et les prêtres seront bien placés à plusieurs reprises, notamment pour la messe, les prêtres seront sur le podium du Saint-Père avec les évêques et les chapelains, les prêtres du diocèse seront là. Ils seront aussi, le soir, ceux qui seront encore présents dans la procession que le Saint-Père présidera en faisant lui-même la procession derrière la statue de la Vierge sur l'itinéraire habituel que l'on connaît pour la procession mariale.
Ça, c'est la première fois qu'un pape...
Donc, c'est les gens de la Bigorre qui seront devant avec l'hospitalité diocésaine et les malades accompagnés par l'hospitalité diocésaine qui ouvriront la procession, suivie de la statue de la Vierge, suivie du pape, des évêques, la suite du pape qui seront là, et puis les prêtres du diocèse qui seront là aussi. Pendant que les autres évêques et les autres prêtres attendront installés devant la basilique du Rosaire. Mais pour la procession elle-même, c'est le diocèse de la Bigorre qui sera en procession avec le pape. Donc voilà, un certain nombre d'autres moments comme ça auxquels j'ai tenu, et tout le monde recevra les instructions nécessaires. Les prêtres du diocèse auront une sacristie dédiée, particulière, qui sera distincte de celle des 1500 prêtres autres attendus pour la messe, par exemple.
Voilà, c'est toute la Bigorre et les quatre vallées, donc qui se prépare à accueillir le Saint-Père à la fin du mois de septembre. Avant cela, Monseigneur, on a un beau week-end déjà en perspective, en ce premier week-end de septembre, puisque alors déjà samedi, c'est le pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-Dame des As. Et puis dimanche, il y a la journée diocésaine pour les jeunes qui s'achèvera pour tous les fidèles du diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec un rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame de la Cède où vous célébrerez l'ordination diaconale de Corentin Laguens, qui est un de nos séminaristes, une ordination en vue du presbytérat. J'insiste là-dessus puisque, allez, on confie tout à nos auditeurs, lors d'un échange que nous avons eu cette semaine, j'ai fait l'erreur de dire ordination en vue du sacerdoce et vous m'avez repris en disant que non, c'est une ordination
c'est un
en vue du
presbytère. C'est un point de théologie auquel je suis extrêmement sensible. Le sacerdoce, nous le partageons tous depuis le baptême. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles, comme j'aime à le rappeler chaque fois qu'il y a un rassemblement diocésain ou que l'occasion se présente. Le terme français qui traduit deux termes distincts en latin, deux termes distincts en grec, deux termes distincts en hébreu. En français, on n'a qu'un seul mot, c'est le mot de sacerdoce. Alors il faut qualifier ce sacerdoce pour comprendre de quel sacerdoce on parle. Le sacerdoce commun des fidèles, c'est le sacerdoce que nous recevons le jour du baptême, lorsque le prêtre, le diacre qui nous baptise, dit « Désormais, tu es prêtre, prophète et roi avec le Christ », qui est l'unique prêtre, en fait. Donc, prêtre, prophète et roi, c'est le sacerdoce que nous avons en commun. Voilà. Par contre, il y a une autre participation à l'unique sacerdoce du Christ, c'est celle que l'on reçoit par l'ordination, et à ce moment-là, on qualifie ce sacerdoce de sacerdoce ministériel ou de sacerdoce presbytéral. Et c'est le sacerdoce du service des prêtres que les prêtres rendent à l'Église en étant prêtres, précisément, pour permettre aux fidèles d'exercer le sacerdoce baptismal. Voilà. Et donc, bon, c'est des subtilités théologiques, mais qui sont extrêmement importantes. Et donc, Corentin est ordonné diacre en vue, plus tard, d'être ordonné prêtre.
Donc ça veut dire qu'il pourrait être ordonné prêtre pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes au cours de l'année 2027.
C'est ce que...
Son discernement n'est pas terminé, mais...
Le discernement est terminé maintenant, sinon il ne serait pas appelé à être ordonné diacre.
Mais la formation n'est pas terminée.
Mais la loi de l'Église prévoit que l'on exerce au minimum 6 mois le ministère diaconal avant de pouvoir être ordonné prêtre.
Voilà, donc une grande et belle nouvelle pour notre diocèse. Il est l'un de nos 5 séminaristes.
6.
6 séminaristes, voilà. Donc
il est l'aîné de nos 6 séminaristes et il a reçu une mission qu'il va poursuivre, mission d'études, puisqu'il vient d'achever sa formation en théologie au séminaire français à Rome et à l'université grégorienne. Et à la rentrée, ce mois-ci, il commencera un cycle de 3 ans pour devenir licencié en droit canonique. Et c'est extrêmement important de disposer dans les diocèses de canonistes. C'est vraiment...
C'est quoi, c'est le rôle du chancelier
Alors c'est l'officiel plus que le chancelier. Le chancelier peut être un laïc qui a suivi une formation minimale en droit. Par contre, on a besoin de chancelier, mais on a besoin de canonistes aptes à remplir les fonctions d'officiel, c'est-à-dire de juge dans les tribunaux ecclésiastiques. Et on est en manque considérable d'ecclésiastiques formés pour occuper occuper ces postes-là. Alors je ne sais pas si un jour Corentin occupera ce poste-là, mais en tout cas on a besoin de canonistes. Il a déjà fait lui des études en droit civil avant d'entrer au séminaire, et donc il a à la fois l'intérêt, la compétence et les dispositions pour faire cette formation en droit canonique. C'est un investissement, hein, parce que pendant 3 ans...
Mais ça veut dire qu'il doit rester encore à Rome, alors.
Pendant 3 ans, il sera encore à Rome.
Et il sera prêtre pour notre diocèse, mais
il sera diacre d'abord, puis prêtre, si tout se passe bien pour le diocèse, où il pourra exercer son ministère à l'occasion des retours dans le diocèse pour les périodes de vacances, mais sa mission principale, on va dire, sera d'être encore étudiant quelque temps.
Ah oui, donc il faut qu'on soit encore un petit peu patient. Bon, merci Monseigneur Mika pour toutes
ces
nouvelles.
Avec grand plaisir. Voilà. Vraiment rendez-vous à tout le monde à la cathédrale dimanche après-midi, ce sera une très 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 belle fête.
Voilà, et avant cela, Notre-Dame d'Eas, samedi à 11h, vous célébrerez la messe donc dans ce pèlerinage annuel, dans ce sanctuaire marial de la Bigorre.
Ce sera avec grand plaisir et j'aurai la joie de faire découvrir ce sanctuaire au supérieur du séminaire français de Rome qui vient pour présenter Corentin à l'ordination le lendemain.
Merci Monseigneur, à la semaine prochaine.
Avec plaisir.